Je vais maintenant donner la parole à Gaëlle Théval, qui est professeure agrégée, ingénieure d'études et membre du TALIM, Théorie et Histoire des Arts et des Littératures de la Modernité, à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Elle est aussi chargée de cours à l'Université de Rouen. Ses recherches portent sur la poésie des avant-gardes et des néo-avant-gardes, la poésie contemporaine qu'elle envisage sous l'angle de l'intermédialité et des échanges entre les arts. Elle s'intéresse elle aussi au rapport entre écriture et image, à la matérialité de l'objet écrit, ainsi qu'aux médiations de la poésie qui nous intéresse aujourd'hui, dans le livre et hors du livre, je ne dirais pas délivré, thème qui nous réunit aussi aujourd'hui. Outre sa thèse publiée en 2015 et de nombreux articles sur ces sujets, elle a tout récemment coordonné avec Olivier Pénaud-Lacassagne un ouvrage sur poésie et performance, paru aux éditions Nouvelles Cécile Defaux, tout récemment en 2018, suite à deux journées d'études qu'elle a co-organisées en 2014. Ces journées présentaient l'originalité, comme c'est le cas ici des Assises de la Poésie, de ménager une place de choix à la voix des poètes, de poètes comme Julien Blaine ou Michel Métaille, à l'instar des présentes assises. Je lui donne la parole pour une intervention intitulée « Quelle scène, au singulier ou au pluriel, pour la poésie performance ?»
Merci. Merci beaucoup pour votre invitation. Je vais effectivement donc parler de performance et non pas justement donc de lecture publique. Donc ça va reprendre la suite de ce que disait Yann Bétens. Et surtout pas effectivement de poésie délivrée. Là, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit là-dessus. Alors, si la question des médiations et de la diffusion de la poésie se pose donc pour toute pratique poétique, il est un pan important de la poésie contemporaine pour lequel elle se pose de façon singulière. Issue des poésies dites expérimentales, et en particulier de la poésie sonore, visuelle et de la poésie action, ces poésies trouvent leur spécificité dans le fait qu'elles développent leur écriture dans la prise en considération du médium. Transmédial, je crois qu'on a utilisé le terme tout à l'heure, ces poésies peuvent se penser pour la scène, en lecture, en performance, mais elles existent aussi bien en exposition, dans l'espace public ou encore dans le livre, qui est loin, très loin d'être nié ou remis en cause dans cette affaire, contrairement à ce qu'on présente effectivement souvent de façon, me semble-t-il, erronée, y compris pour la poésie sonore, dont le rapport au livre est bien plus compliqué que ça. Et dans ces cas-là, le livre se voit simplement repensé comme médium à part entière, médium mais parmi d'autres désormais possibles. Alors, la diffusion donc hors du livre ne renvoie pas, pour ces pratiques, à un souci de promotion d'une œuvre ou de faire événement autour d'un livre. Ce n'est pas la question. Une œuvre qui trouverait son vrai lieu donc, dans le livre, comme c'est le cas pour de nombreuses pratiques actuelles de lecture publique. Le hors-livre relève pleinement, donc, pour ces pratiques, d'une implémentation possible de l'œuvre, au sens où l'entend Nelson Goodman, pour qui, je le cite, « la publication, l'exposition, la production devant un public sont des moyens d'implémentation. C'est ainsi que les arts entrent dans la culture. » Je le cite toujours, « la réalisation consiste à produire une œuvre, l'implémentation consiste à la faire fonctionner. » Toujours selon le philosophe, dans les arts d'exécution, donc « performing arts », les processus de réalisation et d'implémentation sont entrelacés, car le premier fonctionnement d'une pièce se produit lorsqu'elle est performée devant un public. Alors si la littérature, dans sa diffusion, on va dire traditionnelle, via le livre, donc, disjoint la réalisation de l'implémentation, dans le cas des poésies expérimentales, il n'en va pas de même, et la réalisation et l'implémentation sont entrelacées. Le poème n'est achevé que lorsqu'il est performé ou imprimé de telle ou telle manière, qui est inclus donc dans sa conception. Donc son impression, sa performance font partie de sa réalisation. C'est en partie ce que Vincent Barras décrit lorsqu'il parle de texte en performance. Et c'est pour ce que, pour ma part, je désigne par l'expression de poésie en performance. Alors, la question qui se pose est alors de savoir, c'est ça qui m'a intéressée en fait aujourd'hui, de savoir dans quel contexte ces œuvres trouvent à s'implémenter. Et comment est-ce que cela influe sur leur réception ? Donc, la question que je vais poser, ça va être celle de la scène. C'est-à-dire comment est-ce que la question de la scène s'articule avec la question de l'implémentation et du fonctionnement de l'œuvre. Et pour envisager ces questions, je me suis intéressée plus spécifiquement à deux poètes qui sont issus de la même génération, qui a émergé dans les années 90, à la fin des années 90, qui tous deux développent une poésie en performance. Ces deux poètes sont James Chatton et Charles Penkin. Alors avant de parler d'eux, je voulais faire quand même un tout petit détour historique pour parler donc de poésie action. C'est-à-dire qu'en synchronie, quand on les envisage comme ça dans le paysage actuel, ces poètes semblent se fondre dans une pratique aujourd'hui généralisée hein, de littérature exposée, de lecture publique, mais elles prennent en réalité leurs sources et reçoivent leur influence de pratiques antérieures, et en particulier de la poésie action telle qu'elle est dans les années 60 avec des figures comme celle centrale de Bernard Haitink. Alors, il n'est pas question ici de tracer une généalogie, mais ce bref détour historique permet d'observer comment ces problématiques, que je vais poser peu à peu, se sont dessinées dès l'origine, dans un contexte littéraire et institutionnel très différent, et de voir justement comment on peut les regarder maintenant. Alors, la poésie action donc, de Bernard Haitink pose dès le départ un problème de scène, de par sa volonté de sortir du livre, pour utiliser donc des moyens technologiques et des moyens de diffusion nouveaux, notamment le magnétophone hein, et le disque, pour remettre la poésie en circulation, dit-il, hein, dans la société. Et les premières publications donc, des objets hybrides, c'est ici, qui deviendront familiers aux poètes, les livres-disques, ne sont pas, dès le départ, sans problème majeur de diffusion. Les libraires refusent de vendre des disques. Les disquaires refusent de vendre des livres de poésie. François Didiot qui raconte hein, comment l'édition de Partition V, donc au Soleil Noir, a failli causer sa ruine pour des questions de TVA divergence, donc qui sont très pratiques, hein, entre le livre et le disque. Alors, les premières performances publiques d'Haitink ont lieu, quant à elles, dans les galeries d'art, à partir de 61. Puis ce sont des lieux d'art qui recevront par la suite ces lectures, comme la Biennale du Musée d'Art Moderne, où une section animée par Jean Tardieu était consacrée aux arts du langage. Donc là, c'est autre chose, c'est le domaine poétique qui s'affiche, mais je vais en parler tout à l'heure. Des croisements aussi ont lieu avec les scènes musicales, j'essaie un petit peu de poser les choses, puisque au cours des années 70, les poètes sonores et des musiciens se côtoient dans des festivals. Par exemple, hein, Haitink est reçu au Festival international de musique expérimentale de Bourges en 75. Il est lui-même lauréat du troisième concours de musique électroacoustique avec Vaduz. Je ne sais plus en quelle année, je n'ai pas noté. Donc, la scène électroacoustique semble à même d'accueillir la poésie sonore. La poésie sonore fait aussi des incursions sur la scène rock, par exemple. Donc, Bernard Haitink, encore lui, a pu en première partie, donc, a pu en 1989 faire la première partie d'un concert de New Wave, donc d'Anne Clark en l'occurrence, à l'Élysée-Montmartre, devant un public d'abord hostile, puis selon le récit qu'il en donne, conquis à la fin, parce qu'il disait Vaduz et il a réussi à emporter tout le monde. Bon, on le croit sur parole, on n'était pas là. Alors, des scènes consacrées émergent aussi, peu à peu, à l'instar du pionnier domaine poétique, créé en 1962 par Jean-Clarence Lambert, et puis suivront de nombreux festivals, on en était question tout à l'heure, consacrés à la poésie sonore et à la performance, comme Polyphonix, par exemple, créé par Jean-Jacques Poulebel en 1979, accueilli aussi par des lieux d'art, comme le Centre Pompidou, où Blaise Gauthier anime la revue Parler, entre 1977 et 1990. Rapide paysage, mais il me semble que la question de la scène est intrinsèquement liée pour ces poésies à ce moment-là à une volonté d'ancrer un champ naissant et de se maintenir malgré tout dans la scène générique qui est celle de la poésie. Je cite Bernard Haitink décrivant ses poèmes. « Que sont-ils ces blocs sonores enregistrés sur bande mais imprimés aussi ?» Donc là, il parle de Derviche le Robert. Qu'est-ce que Derviche le Robert ? De la poésie assurément. Ils en revendiquent le terrible label, la responsabilité pleine et entière. Sortir du livre implique en effet de sortir des réseaux habituels de diffusion de la littérature et par un effet domino semble impliquer une sortie de la littérature, tant la littérature semble alors liée à son médium de prédilection qui est le livre. Se pose alors la question de la reconnaissance de ces objets comme littéraires et donc la question de la scène et du rapport de ces poésies au discours constituant qui est le discours littéraire. Je passe à mon deuxième point. Excusez-moi, j'ai un tout petit problème de PowerPoint, mais voilà. Alors, je voulais simplement afficher ces deux citations, la première de Bernard Haitink. C'est ainsi peut-être qu'à l'image de ce qui a été qualifié de non-art ces dernières années au regard de la peinture conventionnelle, la poésie sonore peut apparaître, de par ses pratiques et ses supports, lois et disciplines, comme de la non-littérature. La deuxième, donc de David Ruffel en 2010, Beaucoup plus qu'une simple sortie du livre, la poésie opérait donc une sortie bien plus radicale, celle de la littérature, de sa vieillerie, de ses scléroses, de son retard au regard des arts plastiques, etc. Alors, un demi-siècle sépare les pratiques décrites par ces constats. Et en 2010, David Ruffel peut observer une généralisation de ces pratiques au-delà des seuls territoires de la littérature d'avant-garde. Leur caractère massif. Donc, quelque chose se serait produit entre les deux comme une dédéfinition, une sortie de la littérature, imputable aux expérimentations formelles hors livre, mais aussi à la sortie hors du champ littéraire que Christophe Hannah qualifie de désinstitutionnalisation, j'ai réussi à le dire d'un seul coup, nécessaire à leur fonctionnement. Il me semble que les modalités de circulation et de diffusion de certaines œuvres de poésie en performance relèvent au moins partiellement de ce phénomène de désinstitutionnalisation, en ce sens que la multiplication des scènes maintient comme le volontaire, on va le voir, maintient parfois à la marge de la scène littéraire, finit par créer des brouillages. Et donc, les poésies donc, d'Anne James Chaton et de Charles Penquin connaissent donc ces implémentations multiples que je vais décrire maintenant. Les contextes d'implémentation de l'œuvre d'Anne James Chaton la font percevoir comme relevant d'un autre genre que celui de la poésie, celui notamment de la musique. Chaton fait de la poésie sonore. Et les réseaux de diffusion de la poésie d'Anne James Chaton sont pluriels, oscillant entre maisons d'édition, labels musicaux, publications d'artistes. Alors, si la plupart des travaux d'Anne James Chaton sont publiés en livre, d'abord via les éditions Aldante, puis pour le dernier opus par les éditions Vertical, ils le sont pour la plupart de la production, sauf le dernier chez Vertical, mais dans un format hybride qui est celui du livre-disque. Donc jusqu'au dernier opus, le livre s'accompagnait systématiquement d'un CD, c'était ça, contenant donc la pièce sonore, là où s'imprime sur des pages non pas une partition au sens propre, mais une version imprimée de cette pièce. C'est le cas par exemple d'Événement 99, publié en 2000, ou encore d'Autoportrait, publié en 2001. En 2011, il s'affiche ici, Anne Chaton publie Événement 09. Au titre et support quasi identiques, un CD plus un livret, cette fois sur le label de musique électronique allemand Rasternoton. Il publie aussi sur un label musical Unsounds des œuvres en collaboration avec Andy Moore, notamment Transfer, qui obéissent à la logique éditoriale de l'industrie du disque et se déclinent, donc l'album est ici, se décline en plusieurs singles. Donc, contrairement à l'édition en livre CD, dont le réseau et la diffusion et les ventes sont celles d'un livre dans un réseau de poésie, donc Anne James Chaton donne des chiffres de l'ordre d'environ 1000 exemplaires en 10 ans pour Événement 99. Donc ça renvoie à ce qu'on disait ce matin sur la très très faible part de marché des livres de poésie, des livres de poésie dans le marché du livre. Contrairement donc à ces éditions-là, la diffusion sera d'autant moins importante que le livre ne sera jamais réédité, puisque le Centre national du livre n'aide pas à la réédition des livres avec disque en France. Alors, contrairement à ça, la diffusion de la musique est mondiale. Et une présence sur un label ouvre un réseau tout autre. Comme le souligne James Chaton lui-même, il explique « Quand je sors des albums avec des musiciens, ce n'est plus du tout le même réseau. L'intérêt, c'est qu'ils vont partout dans le monde, alors que la poésie... » La réception donc, est plus importante et elle s'en trouve également et potentiellement fortement modifiée. Là où dans l'édition Aldante, le CD, pour des raisons de TVA, est offert et l'objet se donne, compte tenu de l'éditeur, qui est un éditeur de poésie, comme un livre-disque, on portera attention au texte, au livre, qu'on va peut-être même lire avant d'écouter le CD. Si on prend le même objet mais publié sur un label musical, le livre, même si c'est le même objet, passe simplement au statut de livret accompagnant un disque. Donc, on ne va pas forcément avoir la même réception de la chose et pas forcément le comprendre comme poésie. Enfin, certaines pièces sont destinées à être exposées. Alors, je passe sur cette question de l'exposition. Alors, la poésie sollicite de la même manière des lieux institutionnels hétérogènes pour les performances. Certaines ont lieu dans des lieux consacrés, type maison de la poésie, médiathèque, ou lors de festivals dédiés, comme les périphéries du marché de la poésie, dont on parlait tout à l'heure. D'autres, plus fréquemment, vont conduire dans des lieux d'art contemporain, à l'instar de la Fondation Cartier, où il effectue une résidence en 2012 et programme une soirée nomade en 2014, ou encore de la Fondation Vuitton, qui lui offre entre 2015 et 2017 quatre éditions de radio, une web radio, animée en live depuis l'auditorium de la Fondation. Il se produit aussi sur des scènes théâtrales, puisqu'il collabore donc avec Fia Ménard et Nosfell pour la création d'Icône, une pièce réalisée à partir de Elle regarde passer les gens, qui est créée en 2016 au Théâtre Malraux de Chambéry. D'autres, enfin, l'amènent via ses collaborations avec des musiciens vers des scènes musicales. Donc, ses collaborations avec le groupe de post-rock expérimental ZX, en particulier avec son guitariste Andy Moore, l'ont amené à intervenir en solo, en première partie, des concerts du groupe lors de leur tournée française en 2010, par exemple. Donc, ce qui, pour Bernard Reitzig, était un apax, il s'est retrouvé juste une fois en première partie, comme ça, d'un concert rock, est devenu la norme pour un James Chaton. Lui a fait découvrir la vie de tournée d'un musicien rock, fait découvrir aussi au public des concerts, des objets non identifiés immédiatement comme poétiques, puisqu'ils viennent voir un groupe de rock et ils entendent une lecture de poésie, ou plutôt une performance en première partie, et donne à la poésie sonore des conditions d'implémentation nouvelles, comme, je cite Chaton, hein, cette fois dans un festival en Allemagne où la scène devait faire 20 mètres de long et les murs d'enceinte 10 mètres devant un public gigantesque, si bien que le poète se voit parfois considéré comme le nouveau chanteur de ZX et que l'on danse parfois sur la poésie d'Adjem Chaton, en particulier lorsqu'il se produit avec des musiciens de musique électronique comme Alvan Otto dans des festivals. Pour ce qui est de Charles Penquin, alors, labels musicaux mis à part, on retrouve une même multiplicité de lieux de diffusion et de scènes chez Charles Penquin. Ses publications chez Aldente puis POL sont parfois, mais non systématiquement, accompagnées de CD contenant l'enregistrement de la lecture du texte, voire parfois d'un DVD, comme pour Je me jette, qui contient un film réalisé par Stéphane Collin, où on voit le poète performer. Alors, ces performances ont lieu aussi dans des lieux consacrés, aussi bien dans des lieux consacrés par exemple dans des écoles d'art, dans des galeries, dans des musées. Il vient la semaine prochaine ici à Lausanne d'ailleurs performer au musée de l'art brut. Via des collaborations aussi avec des musiciens comme le guitariste Jean-François Puvot, il est aussi amené à donner des concerts mais dans des lieux qui sont davantage marqués par la culture underground. Et c'est précisément sur cet aspect de son travail qui me semble spécifique que je voulais revenir. Poète prolifique et graphomane, Penquin publie beaucoup, performe énormément, partout, tout le temps, aussi bien sur des scènes institutionnelles que sur des scènes alternatives. Considérant la performance de poésie-action comme gesticulation, je reprends son terme, hein, Penquin voit dans celle-ci une nécessité personnelle, mais aussi une façon d'entrer en contact direct avec le public pour, je le cite, hein, réintroduire la poésie dans notre civilisation, selon une conception qui doit en partie de ce point de vue à la performance telle qu'elle s'est développée dans les arts plastiques au cours des années 70, précisément dans une volonté d'échapper à l'institution et au marché de l'art. Associée à une conception politique, on va dire libertaire, cette position conduit le poète à se produire dans des lieux non consacrés et bien souvent à se passer des médiations institutionnelles au profit d'une pratique et d'une esthétique qui est celle du « do it yourself », popularisée par exemple par le mouvement punk dans les années 70-80. Si pour Penquin, je le cite, la poésie est une épingle à nourrice sur la bedaine de l'humanité, c'est en dehors des institutions qu'elle doit être réintroduite dans la société, dans la mesure où celles-ci conduisent à des logiques, je le cite ici, intéressées, d'où finalement, selon lui, le public est exclu. Je le cite, il est extrêmement critique justement vis-à-vis de ça. En dehors des festivals, des printemps des poètes, des biennales, créées pour publier des livres et recevoir des subventions et non pour trouver un public. C'est lui qui le dit, c'est évidemment pas moi. Alors, la création du collectif Armée Noire, avec lequel le poète performe régulièrement, vise ainsi à, je le cite à nouveau, recréer des forces collectives dans l'association avec d'autres arts, qui l'amène à lire dans des lieux situés hors du monde de l'art, hors du monde de la littérature. Rond-points, rues, espaces publics divers, bars, sont des scènes de ses performances le plus souvent improvisées. Expression utilisée dans le cambrésis dont le poète est originaire pour désigner des gens peu fréquentables, Armée Noire renvoie à l'idée d'une parole qui n'est pas représentée et qui existe partout, je le cite. Et c'est cette réception que le poète recherche en se passant de l'institution. Il s'agit pour lui de performer, je le cite à nouveau, à même la vie. Il est cependant un autre mode de circulation et de transmission des poésies en performance sur lequel je voulais m'arrêter aussi aujourd'hui, particulièrement et diversement investi par ces poètes, qui sont donc les circulations numériques. Ce sera mon troisième et dernier point. Alors, Comme le rappelle Gilles Bonnet au seuil de son récent ouvrage « Pour une poétique numérique », il est bien des façons pour un écrivain d'être sur Internet. Je le cite, « Certains, les plus nombreux encore, n'envisagent le réseau que comme une belle vitrine, capable de donner une visibilité accrue à leurs publications sur support papier. L'outil numérique est instrumentalisé et réduit à une portée communicationnelle. » Cependant, les possibilités offertes par Internet en matière de diffusion de vidéos, notamment, offrent à la poésie performance des opportunités nouvelles de diffusion. On trouve de fait un nombre important de captations de lecture et de performances, des captations institutionnelles relayées sur les sites attenants, par exemple le Centre Georges Pompidou, qui capte maintenant, depuis pas si longtemps que ça, les performances qui s'y donnent. Des captations sauvages aussi, multipliées par les possibilités d'enregistrement vidéo, c'est-à-dire que n'importe qui peut enregistrer une performance avec son téléphone et ensuite rebasculer ça sur YouTube. Donc ces vidéos sont autant de documents sur les performances qui autorisent aussi une circulation plus large, puisque permettent de capter un événement par définition éphémère. Alors la performance comme événement, production hic et nunc, appelle de fait le document, appelle la trace. Je cite Gilles Bonnet, caractérisé par sa grande capacité technique d'archivage, sa réactivité, sa large accessibilité, sa nature plurimédiatique autorisant la coprésence des textes, enregistrements sonores, photographiques et vidéos, le site web devait donc s'imposer comme lieu de conservation privilégié de la performance. À la différence de l'archive consignée dans l'espace physique, l'archive du site web est marquée par l'actualisation, allant précisément à l'encontre d'une pétrification. Archivée dans le site web, la performance retrouve son inscription dans un hic et nunc, en même temps que chaque consultation du site, chaque actualisation ressortie à son tour a une performance, comme le note très justement Gilles Bonnet. Donc chaque consultation reconstruit des actions éphémères. Alors Internet est non seulement un lieu et un moyen de diffusion et de remise en circulation de la performance archivée, mais elle est aussi un moyen de publication et d'écriture à part entière de la performance. Les facilités offertes par les nombreuses plateformes numériques disponibles incitent ce que Gilles Bonnet a nommé les écrans vains à produire ces formes spécifiquement numériques, à ne pas se contenter d'une représentation et d'une médiation de soi grâce aux technologies numériques, mais à investir Internet comme un véritable environnement doté de ses contraintes et potentialités spécifiques. Et compte tenu de la poétique intermédiaire des poètes auxquels nous nous intéressons, il n'est pas tout à fait étonnant que ceux-ci s'emparent à nouveau de cet outil-là, des possibilités offertes par le web envisagées comme médium. Alors chez Charles Penquin, ce brouillage des frontières entre amateurs et professionnels, caractéristique donc de sa pratique, est reconduit sur Internet où l'esthétique do it yourself prime, en particulier sur des plateformes vidéo comme YouTube. Son site d'auteur, donc, qui s'affiche derrière moi, et le lieu de publication tous azimuts, d'archives, de documents non publiés, retrouvés, de micro-éditions, ou encore de textes comme jetés là. Si on clique sur le texte ici en haut, on a un énorme pavé qui s'affiche. On ne sait pas d'où ça sort, c'est quelque chose qui n'a probablement jamais été plié. En fait, on n'en sait rien, c'est juste le texte proposé brut comme ça. Et les réseaux sociaux, en particulier Facebook, ont exactement Charles Penquin, la même fonction de recueil, d'une production abondante et graphomane. Donc sous le nom de Guignol, sur Facebook, il peut publier comme ça des énormes statues, donc ils n'ont plus vraiment le statut de statue, mais des textes comme ça en guise de statue. Alors parmi ces publications, les vidéos de performance, et plus précisément des vidéos-poèmes ou vidéos-performance, occupent une place particulière. Puisque Penquin développe depuis plusieurs années donc des poèmes, vidéo-poèmes, destinés à recueillir des improvisations ou encore à documenter des actions ayant lieu dans un espace public mais sans spectateur. Alors, je vais vous donner quelques exemples dans un instant. Je le cite, comme je me considère un tant soit peu poète actant, comme j'ai parfois l'irrépressible besoin de prendre un dictaphone, un mégaphone, un téléphone ou un livre ou quelque chose pour performer dans la vie de tous les jours. De fait, ces vidéos montrent la plupart du temps le poète dans des situations quotidiennes, dans l'espace domestique, parfois intime, comme la salle de bain, ou encore dans des espaces publics non dédiés, donc des lieux de passage, des gares, des rues, des supermarchés, du métro, le périphérique, etc. Enfin, il est sur le bord du périphérique. Je vais vous en montrer un exemple. Fortement lié donc à sa pratique de l'improvisation, ce premier ensemble de vidéos donc, montre le poète performant dans la vie de tous les jours. Alors juste un tout petit extrait. Tout petit extrait ici. Voilà, donc un exemple d'improvisation. J'ai pas de son. Merci.
Très bien que je t'aime. Tu le sais. Tu sais que je t'aime. Tu le sais.
En fait, c'est pas affiché, ça s'affiche sur mon truc, je sais pas pourquoi.
Tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Tu sais très bien que je t'aime. Tu sais très bien que je t'aime. Tu le sais. Tu le sais que je t'aime. Tu sais très bien. Tu sais très bien. Tu sais très bien que je t'aime. Tu le sais. Tu sais très bien, tu sais très bien que je t'aime, tu sais très bien que je t'aime.
Voilà, donc un premier exemple. Hein. Deuxième exemple, ici d'une lecture cette fois-ci, qui s'appelle « Extrait accompagné des exosomes » où le poète lit dans une gare. Accompagné donc de personnes qui... pianote sur les pianos mis à disposition dans les gares SNCF.
Ça ne s'occupe qu'un temps, le bruit de l'autre. Le bruit de l'autre. Et après, on revient à soi. On ne revient que de soi. Avec l'autre. L'autre. En bruit de fond. Et nous-mêmes avec, nous dans le bruit de fond de soi-même, car soi et nous-mêmes, ça fait deux, ça fait la paire, ça fait la paire, comme on dit.
Voilà, donc je vous laisserai si vous voulez. Hop, je vais pas passer le troisième extrait parce que je pense que je manque de temps. Et je reviens donc sur mon diaporama. Alors, et donc dans le troisième exemple que je voulais montrer, il est au bord du périphérique et donc il lit des extraits, mais on entend très peu sa voix parce qu'il est bien sûr couvert par le bruit des voitures qui passent. Alors, donc dans cet ensemble de vidéos, le montrant dans des espaces publics, lisant par exemple des textes à voix haute dans des espaces non consacrés, se pose pour lui la question du spectacle et du public. Et là, je le cite, « Je me pose la question du pourquoi du spectacle. À quoi ça sert d'être enfermé dans une pièce pour voir quelque chose? Qu'est-ce que ça fait par rapport au fait, par exemple, d'être seul à écouter ou à lire une œuvre? Pourquoi faut-il qu'il y ait cette société du spectacle dans laquelle on convoque pour voir, entendre, sentir l'art en groupe ?» Alors, dans ces extraits, par exemple ici, extrait accompagné des exosomes, les passagers, donc pianistes improvisés, hein, donc, accompagnent malgré eux la lecture. Et ce qui est intéressant, c'est que bien que non préparés, la situation et la mélodie jouée au piano finissent par un effet de montage, en quelque sorte, par entrer en résonance et par faire signifier le contenu du texte des autres autrement et en relation donc, avec ce qui se produit autour. Donc les sons, hein, les bruits extérieurs, troublent la lecture, peuvent aller jusqu'à en masquer le son. Et voilà, il s'agit de captation de lecture dont le public est un destinataire seulement a posteriori, donc via la vidéo. Ces bruits, hein, parasites, en termes communicationnels, contribuent en réalité, je cite Gilles Bonnet ici qui parle de lecture que fait François Bon sur des ronds-points, notre type de lecture dans des espaces non consacrés, contribuent en réalité à l'édification de ces lectures in situ en performance. On retrouve dans ces vidéos de performance l'esthétique amateur, donc issue du mouvement DIA, caméra GoPro, smartphone, vous voyez la qualité de cette vidéo est très piètre, prise unique, absence de montage, parasitage par des événements extérieurs, donc l'amateurisme hein, de ces vidéos est exhibé. Ces vidéos sont datées, elles ne sont pas situées, elles sont présentées comme des objets autonomes. Donc la vidéo et la publication via YouTube extraient là encore la performance des cadres institutionnels. Je cite à nouveau Gilles Bonnet, la performance extrait l'art des cadres institutionnels pour investir d'autres espaces, tout comme la littérature nativement numérique se libère du livre, de sa chaîne, pour pratiquer notamment l'auto-édition et la diffusion ubiquitaire. Juste un mot pour rappeler que le web est aussi un lieu de diffusion pour un James Chaton, sur des modalités très différentes, puisqu'on retrouve des formes spécifiques qui prolongent numériquement les modalités de présence du poète sur différentes scènes. Je n'ai pas le temps ici de les diffuser, mais le poète fait figurer sur son site des liens vers des formes spécifiques réalisées en collaboration avec les musiciens sur le format du vidéoclip. C'est le cas ici pour une collaboration avec Andy Moore. Et il use aussi des réseaux sociaux, juste terminer là-dessus, comme des moyens d'édition, comme le montre la série encore en cours, intitulée 365 preuves de l'existence de jeux. Donc chaque jour, depuis le 1er janvier, le poète publie sur Facebook un document légendé de manière identique et numéroté, à la manière donc, d'un éphéméride, transposant donc, dans l'espace et la temporalité propre au réseau social sa pratique de collecte de ce qu'il nomme les écrits pauvres que nous générons tous les jours par nos actes comme des tickets de caisse, et dont l'agrégat finit par tracer un portrait. Pour conclure, hein, donc simplement très vite, hein, à travers ces deux exemples représentatifs d'un pan important des écritures poétiques contemporaines, c'est, nous semble-t-il, un jeu de sortie, d'entrée, de négociation, de contournement permanent avec la scène littéraire et ses institutions qu'on assiste. Et les médiations donc, du poème font partie intégrante de celui-ci, mais les lieux de diffusion et de circulation contribuent donc à un brouillage constant, en même temps qu'ils témoignent peut-être d'une extension du domaine poétique ailleurs que dans le champ de la littérature. Merci.